dernière journée de la semaine. Coach A, comment ça va?
Ah bien, petite surprise à remplacement de Vanessa.
Ben ouais, ça j'allais dire, ça fait changement là. Tu reviens un vendredi, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça ensemble.
Ouais, j'étais disponible, elle pouvait pas être là, donc je suis là. Puis si tu me permets, JF, journée importante, 19 novembre, fête de notre barbu national, bonne fête à barbu.
Ben ouais.
Barbu. Important de souligner.
J'ai vu ça, hey, c'est quoi, j'allais le mentionner. On s'en est pas parlé, puis j'allais le mentionner. Un invité qui vient de temps en temps nous raconter des petites histoires. Bonne fête le barbu, effectivement. Bon point. Max, on a un invité, j'ai eu la chance de lui parler à quelques reprises en entrevue avec aux agents libres, un autre podcast. Toi, tu le connais bien aussi par l'entremise de son entreprise, en fait, Sacha Gavemi, comment ça va?
Salut, ça va bien, vous autres?
Alors, super bien, merci. Max,
ouais.
J'ai de le mentionner, tu connais Sacha via son entreprise, je te laisse un peu faire l'introduction de ça.
Oui, ben en fait, Sacha, il travaille avec certains de nos joueurs au niveau du placement collégial, de l'encadrement du joueur. Sacha, tu travailles présentement avec Félix Morin, tu as travaillé avec Charles Bernard qui était avec nous. Si tu nous expliquais un petit peu là, ton entreprise pour les joueurs amateurs de baseball, puis en même temps, ben en fait, je vais t'amener sur une autre question par la suite. Vas-y avec ça.
Oui, en fait, je te dirais, je travaille dans le monde du sport depuis 2013 comme agent d'athlète au football. Je suis avocat de formation, puis... moi, mon frère plus jeune est allé à l'université américaine. Il joue au tennis en NCAA, puis il a eu son bac en génie physique. Puis je trouvais vraiment son parcours assez intéressant. Puis je sais qu'au Québec, quand moi j'étais athlète plus jeune, puis les gens que j'ai côtoyés, toujours trouvé ça compliqué puis difficile, savoir comment se rendre, puis un peu le cheminement, puis les différentes options. Puis je te dirais que ma mère a aidé mon frère et d'autres avec le processus plus administration, les études et tout ça. Fait qu'en 2018, on a décidé de lancer une entreprise qui s'appelle Vers Recrutement Universitaire. Puis l'objectif, c'était d'aider des jeunes de plusieurs sports à un peu naviguer à travers le processus, puis travailler avec les entraîneurs, puis les programmes, un peu les épauler dans le cheminement, puis les aider à trouver des endroits pour les placer. Puis, ultimement, ce que moi j'ai trouvé vraiment stimulant là-dedans, c'est que ça va chercher les études. Puis, avec les joueurs de baseball, ben c'est un beau sport parce que tu as des belles débouchées aux États-Unis. On a des bons programmes ici qui ont le mérite d'être connus. Puis d'aider les jeunes un peu à naviguer à travers ça, leur donner un peu de la visibilité qu'ils ont besoin, d'appuyer un peu ce qui se fait déjà. Bien, moi, je trouve ça super intéressant. Puis en fait, il y a différentes options. T'sais, les gars, ils voient souvent le D1 fort, mais il y a beaucoup d'universités division 1, division 2, division 3. Il y a des universités qui sont très fortes académiquement dans les trois divisions. Fait que tu peux trouver ton compte un peu partout dans ce que tu recherches. Évidemment, il faut que tu aies un certain niveau de baseball. Puis le meilleur ton niveau, la meilleure division nécessairement, mais en même temps, ça crée des ouvertures qui sont le fun aussi.
Ouais, puis le fait que vous soyez dans le processus souvent va donner un sérieux coup de main parce que les gens sont peut-être moins au courant, mais c'est beaucoup d'étapes à faire pour pouvoir être éligible à aller étudier aux États-Unis en termes de scolarité, le Eligibility Center du NCAA. De coordonner ça avec l'école, avec le NCAA, avec ce que tu as ici, pour faire les transcriptions du français en anglais, c'est très compliqué. Maintenant, les athlètes NCAA peuvent commencer à recevoir des commandites un petit peu. Est-ce que maintenant les joueurs peuvent dire qu'ils ont un agent ou ils doivent continuer à dire qu'ils ont des conseillers? Puis tu peux expliquer à nos auditeurs la différence entre les deux, s'il te plaît.
Donc, c'est une bonne question. Les règlements ici t'empêchent toujours d'avoir un agent parce que la définition d'agent, c'est aussi vers les équipes professionnelles. Donc, exemple, si j'arrivais à un jeune puis je disais « Hey, on va t'aider pour le MLB mais aussi pour la NCAA », on n'aurait pas le droit. Donc, ce que la NCAA permet, c'est un service quand c'est uniquement pour viser l'universitaire. Ça, c'est permis. Donc, vraiment pour les études. Donc, pas d'aspect professionnel. Maintenant, tu as le droit d'avoir je dirais des agents marketing, si on peut dire ça comme ça, pour les aider dans la recherche de commanditaires pour des deals, des ententes, pardon, de name, image and likeness. Donc, le NIL, le fameux NIL qu'on voit circuler depuis plusieurs mois dans l'NCA. Donc, ça a ouvert la porte pour ça, mais encore une fois, la règle d'avoir des agents, elle reste la même, là, jusqu'à preuve du contraire.
Donc, tu restes un conseiller pour ces jeunes joueurs-là.
Oui.
Est-ce que toi, comme agence, tu pourrais avoir un côté baseball, par exemple, sans toi être l'agent de ces jeunes-là au baseball, d'engager ou d'avoir des gens dans ta firme à toi qui sont spécialisés dans le baseball?
Ben, dans le fond, moi, j'ai comme mon entreprise qui fait du professionnel, c'est du, je fais du football, tu sais. Je pourrais, mettons, si je voulais me lancer dans le baseball, c'est pas nécessairement dans les plans parce que ça reste que, tu sais, tu te crées une niche dans le foot, puis il y a des gens très compétents qui font du baseball, puis ce serait peut-être d'ajouter un membre à l'équipe qui fait du baseball, ben ça, je suis pas fermé. Mais dans l'universitaire, dans le fond, ce qu'on a remarqué, c'est que, tu sais, nous, notre philosophie avec comment qu'on travaille, c'est qu'on travaille beaucoup avec les entraîneurs, on travaille beaucoup avec les coachs. On veut impliquer les coachs dans le processus parce que c'est eux qui connaissent l'athlète au niveau sportif, au niveau technique. Puis on n'arrive pas en disant, OK, il faut que tu fasses, tu sais, je ne veux pas dire à un jeune, il faut que tu lances ta curveball de cette façon-là ou que ta change-up, il faut que, tu sais, c'est pas vraiment mon rôle. Tu sais, j'aime ça dire que je connais le baseball, mais je connais pas autant ça qu'un coach de base, tu sais, vraiment loin. Fait que l'idée, c'est de travailler en collaboration puis de nous offrir un support sur, OK, mais voici telle option qui existe, voici telle option qui existe. Coach a parlé de les différences au niveau de les crédits puis les équivalences, quelque chose qu'on fait souvent, quel cours qui te manque, qu'est-ce qu'il faut aller chercher, est-ce que c'est mieux d'aller chercher un grade 12, est-ce que c'est mieux d'aller chercher un diplôme collégial dans ton cas, c'est quoi les pour et les contre de chaque, puis de les aider à naviguer à travers ça, l'Eligibility Center, le SAT. Donc, je vous dirais que nous, on fait plusieurs sports dans l'universitaire parce que on ne se vante pas, on ne se présente pas comme étant expert de tous les sports au niveau technique, mais on travaille en collaboration avec les acteurs du milieu qui le sont pour compléter ce qui manque un peu au dossier de notre côté.
Tu travailles étroitement avec ta mère dans le processus. C'est une femme très dynamique. Comment que c'est de travailler avec sa mère ou à tous les jours comme ça?
Ah, c'est une bonne question. C'est le fun. Ça a ses propres défis. Ouais. Je pense que ma mère, après le dire, je pense qu'elle a appris à être meilleur de séparer le personnel du professionnel. Tu sais, admettons, on peut avoir une discussion sur un dossier que je suis pas content ou elle est pas contente, mais tu sais, on peut s'appeler le soir pour qu'elle vienne voir mon petit puis que c'est la grand-maman, tu sais, puis dans le sens que, tu sais, faut être capable de séparer les deux. Puis quand on commençait l'entreprise, on savait pas comment ça allait aller. Tu sais, finalement, ça a bien été, c'était le fun. Puis, mais tu sais, elle travaille super fort. Puis je disais, c'est sûr que je suis un peu plus connu qu'elle dans le monde du sport, mais je peux vous dire que c'est elle qui mène le show dans le sens que moi, j'ai toujours dit, c'est toi la boss, puis moi, je te suis, tu sais, je suis là pour appuyer dans le conseil, mais elle a une bonne relation avec nos jeunes, les jeunes l'aiment beaucoup, puis tu sais, elle travaille fort, puis elle veut le meilleur pour les jeunes, pour qu'ils réussissent, donc tu sais, tu peux pas demander mieux que ça, finalement.
Qui a trouvé le nom de l'entreprise? Parce que moi, j'ai accroché avec ton nom d'entreprise. Je le trouve super cool parce que je trouve ça super important. Puis te connaissant, je sais que c'est vraiment ça. C'est pas juste pour flasher. Ouais. Là. Mais juste me parler du nom de l'entreprise. C'est quoi le nom? Puis comment c'est arrivé à ce nom-là?
En fait, le nom, c'est VAS, Recrutement Universitaire. VAS, c'est VA, Tradition AS. Puis les gens me posent souvent, ils me demandent ce que ça veut dire VAS. Puis, moi, pendant longtemps, j'ai fait agent de joueur sans vraiment de nom de compagnie, vraiment plus, c'est moi, puis on travaille à travers ça. Puis en 2017, je me suis dit, tu sais quoi, ce serait peut-être bien de commencer à mettre un nom à cette entreprise-là. Fait que j'ai fait affaire avec une entreprise en branding qui m'a offert de faire le processus. Puis ils sont arrivés avec des propositions, ils sont avec VAS. Je me suis dit, c'est quoi ça, VAS? C'est un peu comme tout le monde. Puis l'acronyme, c'est Vision Avant et Après Sport. Ça m'a vraiment accroché parce que autant dans le pro que si tu penses pas à ton après-carrière, pendant ta carrière, ben tu manques le bateau. Puis autant dans l'universitaire, ben la raison de base pour qu'on aime faire ça, c'est que les jeunes vont aller chercher des diplômes puis qu'ils vont être des personnes plus complètes en sortant. C'est un peu ça l'objectif. C'est tant mieux si le baseball t'amène jusqu'à dans le show puis tu deviens un lanceur des majeurs. Puis écoute, super, ben même là, c'est même pas un plan B, c'est même là, ta carrière finit un jour. T'sais. Tu peux être Jamie Moyer puis finir à 45 ans, mais tu peux aussi être un joueur plus jeune qui finit à 30, 32, puis ça se termine là. Mais c'est en sachant que tu as des projets à l'extérieur, que tu peux faire autre chose, moi, je suis convaincu que ça te rend un meilleur athlète parce que ça te force, t'es pas en train de penser à dire « Hey, faut que je fasse le base, sinon je me ramasse avec pas grand-chose. » C'est un peu ça l'objectif. Fait qu'on a, j'ai stické sur l'acronyme. Puis ma business professionnelle, c'est VAS Management. Puis dans l'universitaire, bien, c'est VAS Recrutement Universitaire. Fait que j'ai trouvé ça une belle façon de continuer sur ce chemin-là.
C'est excellent. Écoute, là, il va falloir que tu m'aides. Puis que tu aides nos auditeurs aussi. Les contrats de joueurs de football sont complètement différents d'un joueur de hockey, d'un joueur de baseball. Quand un joueur de baseball signe pour 5 ans, 100 millions,
Oui.
Il va avoir 100 millions.
Oui.
Quand un joueur de football signe pour 5 ans 100 millions, ça se peut qu'il ne l'aille pas au complet. Puis il y a des fortes chances qu'il ne l'aille pas au complet s'il se passe de quoi dans sa carrière. Moi, je veux savoir, bon, si tu peux démystifier ça rapidement, puis nous expliquer ton rôle aussi quand tu rentres dans le bureau pour négocier un contrat d'un de tes joueurs, comment que ça se passe?
Oui, en fait, tu as 100% raison. Quand je vois Berrios signer à Toronto pour 131 millions, lui, il sait que à moins de quelque chose d'un peu extrême, off, à l'extérieur du terrain ou quelque chose qui pourrait annuler le contrat, il va toucher 131 millions. Au foot, les gens y accrochent beaucoup sur le montant total des contrats, mais en fait, la structure puis le montant garanti négocié du contrat est la clé. Mon travail en tant que représentant d'athlète au football, c'est pas juste de négocier le montant total puis la moyenne annuelle. La structure puis négocier le montant garanti devient super, super important. Fait que des fois, tu peux voir des contrats qui sont signés. Exemple, j'en ai vu un pour un athlète qui s'est signé, exemple, un contrat de 45 millions. L'année 1, garantie à 100%. L'année 2 devient garantie s'il est encore sur l'équipe au 10 mars de l'année suivante. Fait que ce qui arrive, c'est que si, exemple, il joue pas une bonne saison, ou il se blesse ou quelque chose va moins bien, ben le 9 mars, l'équipe pourrait dire on te coupe, puis ils n'ont pas à lui payer le restant de son salaire. Fait qu'ils auront juste payé peut-être 20% du 40 millions qui était à payer. Donc, ce qui est vraiment important, c'est, on le dit toujours dans le milieu du football, c'est le montant garanti a préséance sur le montant total. Oui, tu vas aller chercher les deux, mais pardon, le montant garanti, c'est vraiment ça la clé dans comment tu vas le négocier. Fait que de pas les amateurs de foot qui suivent les contrats, avant de célébrer un contrat ou de dire que c'est un gros contrat, allez voir la structure. Parce que c'est vraiment là que tu juges si le contrat est bon ou pas. Fait qu'on prend un exemple. Un autre aspect de ça, c'est la durée du contrat. Parce que comme les contrats ne sont pas garantis, la durée souvent ne favorise que l'équipe. Fait que quand tu signes un contrat de 8 ans, ben souvent il n'est pas garanti les 8 ans. Il est garanti peut-être les 3 ou 4 premières années. Ce qui se produit, c'est que si à la cinquième année, tu es une aubaine, l'équipe va te garder. Si t'es trop cher, l'équipe va te couper parce que c'est plus garanti. Donc, c'est aussi ça, parce que quand tu donnes la durée à une équipe dans un contrat, ben tu les aides parce que c'est un win-win pour eux. Et l'autre dit, ben c'est comme je viens d'expliquer. Versus dans les sports comme le hockey ou le baseball, les athlètes veulent souvent une longue durée parce qu'ils savent qu'ils vont aller chercher le plus d'argent. Fait qu'on prend l'exemple de Berrios qui a signé 131 millions. Je pense que c'est comme 8 ans ou 7 ans son contrat.
7 ans.
7 ans. Tu sais, lui, dans 7 ans, il va retester le marché environ à 34 ans, ce qui est quand même bon. Mais la réalité, c'est que lui, il était capable de chercher plus d'argent parce qu'il a signé pour 7 ans que si elle avait signé pour 3 ou 4. Versus au foot, maintenant je regarde des contrats comme Dak Prescott qui a signé pour 4 ans à Dallas. Moi, je trouve ça super comme contrat parce que tu dis 4 ans, tu vas chercher 160 millions, c'est une moyenne de 40 millions par année. Tu sais, presque tout est garanti. Puis dans 4 ans, tu vas pouvoir retester le marché. Fait que le marché va continuer à augmenter. Puis toi, tu vas pouvoir retourner en haut de la braquette. Mais tu sais, c'est super, là. C'est comment ça?
Donc, si, sans nous expliquer son contrat, parce que probablement que tu le connais pas par cœur, là, ou que tu le connais pas nécessairement les détails, mais Patrick Mahomes, il y a deux. C'est un gros contrat, ça n'a pas d'allure, un demi-milliard. Puis de l'autre côté, beaucoup de monde disent non, c'est un bon contrat pour vrai, pour les deux parties. T'es où, toi, là-dedans?
Ouais, moi, je trouve que c'est un bon contrat pour les Chiefs. C'est évidemment pour lui aussi, là. C'est beaucoup d'argent, mais, tu sais, en termes de, quand tu compares des contrats à la Ligue, pour les Chiefs, c'est un bon contrat parce que, tu sais, le risque que tu prends, c'est qu'il faut qu'il soit bon pendant le début de ton contrat. Parce qu'après, tu sais, puis bon, là, ça recommence à se replacer. Il y avait, en début de cette année, en première moitié, ça allait plus ou moins bien pour les Chiefs et Mahomes. Là, ça commence à se replacer, mais la réalité, c'est que oui, c'est un demi-milliard. Mais sur le nombre d'années et sur le fait que tu vas voir le marché des carrières continuer à monter, je veux dire, si Dak Prescott avait signé pour la même durée, ça aurait été un demi-milliard, peut-être plus aussi, tu sais, dans le sens que c'est ça le marché des carrières, puis la masse salariale du foot ne va qu'augmenter. Fait que tu faut surtout la tendance du marché. Donc, c'est pas comme si t'as un demi-milliard payable maintenant, c'est sur la durée du contrat, puis selon le marché des carrières, il va toujours se situer. Il ne sera pas nécessairement le plus cher, même Prescott l'a dépassé en termes de moyenne annuelle. Donc, je pense que, honnêtement, pour les deux parties, c'était pour le Mahomes, comme je disais, c'est énormément d'argent et ça fonctionne bien. Puis pour lui, c'est une sécurité. Il y a des athlètes qui n'auraient pas voulu signer ça à sa place. Il y a des athlètes qui auraient dit, donne-moi 4 ans, donne-moi 5 ans, puis je vais retester le marché, puis je vais toujours m'assurer d'être toujours au-dessus du marché, mais il a voulu aller sécuriser. Ça donne une flexibilité aux Chiefs pour les années à venir aussi, donc je pense que c'est bien.
Ouais, j'ai regardé ce matin un article qui parlait de Franco à Tampa Bay avec les Rays, puis il parlait de signer une entente de 10 ans. Je veux dire, au bout de 10 ans, il va avoir quoi? 30 ans à peu près? Fait qu'il va pouvoir retomber agent libre, comme Sacha expliquait. Quand tu rentres dans un bureau de la NFL pour la première fois, quand tu es rentré pour la première fois là, pour Laurent Duvernay-Tardif ou pour ton premier client, là, t'as-tu été intimidé? Comment ça s'est passé? T'as-tu bien dormi la veille?
C'est une bonne question. Je pense que la première année, c'était quelque chose. Comme je pense que quand Laurent, c'était surtout dans son année de repêchage, côtoyer des recruteurs, des gens, des hauts dirigeants des équipes. Tu sais, t'es un kid, tu sais, j'avais 22 ans, j'avais 23 ans, tu fais comme moi, ouais, OK, comme c'est quand même quelque chose, puis c'est ton rêve de kid de faire un métier d'agent. Fait que t'as comme une période de temps que t'es un peu impressionné, mais ça change vite. Puis moi, je me rappelle, j'ai comme eu la réflexion à un moment donné de dire, tu sais, au final, ces gens-là, c'est que le sport est médiatisé. Mais ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sont plus importants que d'autres, dans le sens que tu as des gens qui sont placés dans des entreprises puis que c'est juste pas médiatisé, mais sont super compétents, sont super impressionnants. Mais comme le sport, ça, tu vois ça à la télé, puis ça se suit, puis tu sais, tout ça, ben, ça devient médiatisé. Je faisais toujours la même joke, je disais, pas très bonne la joke, mais je disais, tu sais, si les comptables étaient médiatisés, ben, on connaîtrait tous les comptables, dans le sens, tu sais, pour les avocats, même chose. Fait, ultimement, le sport, ça fonctionne comme ça, mais... Tu sais, moi, ce que j'ai appris, puis le métier d'avocat m'a beaucoup appris ça, c'est une négociation, c'est comme aller à la cour, c'est une préparation. Le plus que tu es préparé, le plus que tu connais ton marché, le plus que tu connais ton dossier, le plus que tu arrives confiant dans une négociation, tu es capable de bien présenter ton dossier, puis c'est beaucoup moins sensationnaliste qu'on penserait dans les films ou dans notre image. Tu sais, c'est des gens d'affaires qui parlent, puis qui essaient de trouver un terrain d'entente sur la valorisation d'un athlète qui fonctionne, puis au niveau de la structure, puis je pense que c'est l'offre et la demande. Un athlète qui n'a pas d'offre à travers la ligue, bien c'est sûr que tu as beaucoup moins de leverage avec une équipe que, exemple, quand on a travaillé le dossier à Laurent, bien on savait qu'il restait dans le contrat, puis ça allait bien ses affaires. Puis on disait, tu sais, si vous attendez qu'il tombe agent libre, il risque d'avoir beaucoup d'intérêt à travers la ligue, puis là, le prix risque de monter, puis là, bien, voulez-vous vraiment prendre ce risque-là? Puis, tu sais, c'est un jeune joueur. Fait on a réussi à trouver une façon, un terrain d'entente au niveau de la durée puis du montant pour sécuriser, mais on était dans une position quand même de force parce que. On n'était pas pressé à faire un deal. T'sais, on était comme, ben nous, les restaurants de contrat, si l'entente ne se fait pas, ben on va juste attendre la fin de son entente, puis il va être agent libre sans restriction. On va voir le marché au complet, puis on va voir, incluant les Chiefs. T'sais, fait qu'on attendait la bonne offre, puis c'est ça qui a fait en sorte qu'on a pu découler ça, versus si t'es un joueur qui, tu sais qu'il n'y aura pas vraiment d'intérêt sur le marché, tu sais que ça va être plus difficile, ben là, t'es un peu plus pris dans ta situation, je dirais.
J'ai envie de t'entendre puis faire un lien avec le baseball. Au mois de décembre, le 1er décembre, je ne me trompe pas, le CBA du baseball arrive à terme. Est-ce que tu as vécu ça avec le football? Parce que là, de mémoire, je ne me rappelle pas quand est-ce que le contrat a été fait. Là. Mais comment est-ce qu'un agent se prépare pour ce genre de situation-là, d'une possible grève? Parce que là, les contrats vont être renouvelés. Il y a beaucoup de joueurs qui vont attendre avant de signer les gros contrats. Comment ça se passe?
Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeux de coulisses qui se produisent entre la Ligue et l'association des joueurs. Puis les agents, on est comme pris là-dedans. Les joueurs aussi sont pris là-dedans. Parce que ce qui arrive, c'est que prends un exemple. Okay? La Ligue canadienne de football. C'est pas autant de budget, mais c'est un bon exemple. La convention collective vient à échéance. Fait que la Ligue a donné instruction aux équipes de ne pas donner de bonus de signature à partir du 1er janvier ou d'argent dans l'off-season. Fait que pourquoi ils font ça? C'est pas une règle. C'est qu'ils veulent mettre des moyens de pression sur les joueurs d'accepter la nouvelle convention collective. Dans la NFL, on l'a vécu, la négociation de convention collective, il y a à peu près 2 ans. Ça s'est réglé, mais ça s'est quand même réglé de façon beaucoup plus harmonieuse et rapide que la dernière fois en 2011. Donc, ça s'est fait d'une certaine façon. Mais tu sais, pour nous, les agents et les athlètes, la meilleure préparation qu'on fait, c'est qu'on dit aux gars, de mettre de côté leur argent, pas dépenser, prévoir comme si elle avait une grève, prévoir comme si elle avait un lockout. Parce que tu peux pas nécessairement avoir la même train de vie si t'as une année sans revenu. Puis t'es un peu à la merci. Puis ce que tu veux aussi, c'est que tu veux mettre les joueurs en position de force de négo. On vient tantôt. Si le joueur il a besoin d'argent, c'est souvent là que les joueurs y plient pour accepter une convention collective qui est peut-être moins bonne. Si les joueurs sont capables de dire hey, nous, on est capable de survivre un an sans baseball, il n'y a pas de problème. Mais là, les propriétaires vont commencer à se dire ouais, mais si on est un an sans jouer, le marché du sport, c'est un marché compétitif. Est-ce que l'intérêt va aller vers d'autres choses? Est-ce qu'on va perdre des parts de marché? Puis c'est là que ça, on peut regarder vers des solutions, peut-être des concessions de la part des propriétaires. Donc, c'est de rester unis. Un syndicat qui n'est pas uni, ça ne sert à rien. Un syndicat qui est uni va aider dans la négociation. Puis pour les agents, ben, nous, ce qu'on on dit souvent, c'est. T'sais, gardez votre argent, conservez-le pour ne pour pas être en situation où vous devez jouer à tout prix.
C'est tellement le nerf de la guerre. Là. L'argent, ils font beaucoup d'argent, mais ils ont aussi le train de vie qui vient avec ça. Toi, quand que tu as tes joueurs avec toi et que tu discutes de l'avenir avec eux, il y a sans doute l'aspect financier de faut placer de l'argent de côté pour les prochains jours. Est-ce que c'est bien reçu? Est-ce que tes joueurs sont ouverts à ça ou souvent on aime dépenser le 2$ quand on en fait un? Là?
Moi, je suis chanceux avec les clients que j'ai jamais eu ce problème-là. T'sais, vraiment, les gars, ils comprennent, puis à la base, ils sont pas très dépensés, ils sont plus dans. Ils comprennent qu'une carrière de football, c'est court. Cool. Même chose au baseball, tu sais, je veux dire, c'est tough de se rendre dans le show. Single A, double A, triple A, tu te rends. Là, les montants sont plus intéressants. Mais c'est un peu bête de dire, après, je vais tout dépenser, tout le travail que j'ai mis pour me rendre là. Mais t'as comme une fenêtre d'opportunité pour aller faire des belles sommes d'argent. Moi, j'ai des joueurs souvent qui vivent sur des budgets très similaires à s'il y avait des emplois réguliers. Tu sais, c'est pas flashy, c'est. Oh, je loue un appartement, ma voiture, c'est pas une voiture de luxe. Tu sais, je me rends au stade, je fais mes affaires. C'est sûr qu'ils se permettent des beaux voyages, admettons, quelque chose. Tu sais, une fois de temps en temps, on dit pas de pas en profiter, mais ouais. De mettre de côté. Fait que, tu sais, souvent, ce que les gars ils font, c'est qu'ils disent bon, mais combien j'ai besoin dans mon budget dans l'année de vivre. Exemple, qu'on dit que c'est 80 000 $. Okay, je donne un chiffre. Ben, fait, 80 000 $, je le garde pour moi. Puis le reste, je le place. Mais ça, rendu là, sur les chiffres que tu fais, ben, c'est sûr que rendu là, tu ferais ça placer beaucoup d'argent. Puis ça te met dans une situation après le sport que tu trouves ça difficile. La santé mentale des athlètes, c'est pas facile après le sport. On en parle souvent, mais c'est quelque chose qui est difficile. Mais au moins, tu sais que financièrement, t'es dans une bonne situation, puis t'es pas mal pris. Puis ça enlève un gros stress là, pour ça.
Absolument.
Ah. Parle-nous, parce qu'on parle tantôt à mes joueurs, mais à part Anthony et Laurent qui sont plus connus que les deux autres, qui est-ce que tu as comme qui est?
Fait que dans la NFL, j'en ai 4 présentement. J'ai Laurent, Anthony et Pierre-Olivier Lestage de l'Université de Montréal, qui est avec les Seahawks de Seattle sur les cas de pratique. Puis j'ai aussi Ryan Hunter, qui est un. Sa mère avait été mis sur la main, il a joué son université à Bowling Green. Aux États-Unis, puis il est avec les Chargers maintenant sur l'équipe de pratique. Il était avant avec les Chiefs, gagné un Super Bowl avec les Chiefs en même temps que Laurent, puis là, il est sur l'équipe de pratique à Los Angeles. Alors, les Canadiens, ils ont environ une trentaine dans pas mal toutes les équipes. Je vous dirais, à Montréal, j'en ai plusieurs, Marc-Antoine Decoy, Mathieu Betts, ça, c'est des joueurs un peu qui ont eu des chances NFL récemment. Sean Thomas Erlington, qui est un porteur de ballon, partant pour Hamilton, Vincent Desjardins. T'sais, fait que t'en as plusieurs des anciens universitaires, beaucoup de l'Université de Montréal, McGill, Concordia, Laval, qui jouent, puis qui permettent d'avoir un rayonnement aussi pour le football québécois à travers le pays. Donc, c'est le fun, c'est vraiment cool. Puis c'est, t'sais, la Ligue canadienne, c'est une belle ligue, c'est sûr, c'est une ligue avec un petit budget, mais ça a quand même des enjeux très similaires à la NFL. T'sais, tu choisis pas le nombre de dollars hein, au final. Ça, c'est le marché cédé par la ligue, mais. C'est le même principe, ultimement, là, que ça vient.
Qui est la prochaine vedette montante au Québec? C'est qui le prochain Laurent Duvernay-Tardif que tu as sur le radar et que tu dis ça, il va se rendre?
C'est une bonne question. Si tu m'avais posé la question l'année passée, j'aurais dit que P.O. Lestage, il a réussi à percer malgré qu'il n'y avait pas de saison, malgré qu'il n'y avait pas de Pro Day, pas de Shrine. Tu sais, vraiment, avec la pandémie, c'était vraiment difficile, mais il y a quand même eu plusieurs offres après le repêchage. Puis on a choisi Seattle, donc c'était vraiment un bel accomplissement. Après ça, l'avenir nous le dira. J'essaie de surveiller ça de près. Tu as des bons jeunes qui jouent NCAA aussi du Québec, ils sont à surveiller. Je pense que tu as quand même des belles avenues à ce niveau-là, puis d'aider les jeunes un peu là, à naviguer là-dedans. Mais moi, au final, j'aime ça les suivre, puis j'ai beaucoup de fierté à aider les jeunes d'ici à avoir un rayonnement, puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis si je peux faire ma part pour les aider à naviguer à travers ça, ben je me constate très chanceux de le prendre.
Là, t'as quand même 2 bagues du Super Bowl à ton actif. Comment est-ce que tu as vécu? Trois? Ben ouais, trois joueurs, mais deux championnats. Ouais. Comment tu as vécu les deux scénarios? Parce que c'est deux affaires complètement différentes là, dans les deux cas. Comment tu as vécu ça?
Ouais, c'était vraiment le fun. Tu sais, avec Kansas City, c'était avant la pandémie, quelques semaines avant la pandémie. Donc, tu sais, c'était un autre monde, on dirait. C'était le fun d'avoir pu aller sur place, vivre ça, puis vraiment vivre le moment. C'était trippant, tu sais, puis de voir la victoire, c'était tout à fait fou. Puis je me souviens que je m'étais dit, ah, j'aimerais ça qu'Anthony le vive. Puis l'année d'après, avec comme défaite, Anthony le vive aussi, tu sais. 4 ans avec les Bucks, c'était avec Tampa, c'était pas une super bonne équipe. Ils ont progressé, changement d'entraîneur. Évidemment, l'arrivée de Brady puis Gronk a beaucoup aidé. Ils se sont rendus. Puis, tu sais, Anthony, c'était une saison cette année-là un peu plus difficile au niveau personnel. Il y a eu des blessures, il est revenu, il a vu du temps de jeu, mais aussi en série. Ils ont préféré y aller pour des élèves rapprochés qui étaient beaucoup plus des receveurs de passe. Mais il a quand même gagné, il a gagné sa vague du Super Bowl. Il a vraiment aidé le club depuis le début. Puis, j'étais super content pour lui. T'sais, je ne pouvais pas être là, malheureusement, sur place, mais d'avoir pu le vivre, le voir. Puis, je comptais pour lui. T'sais, je me rappelle, les gens me demandent, tu vas compter pour qui? Ben, c'est Laurent Jouba, Anthony. Anthony est là. C'est sûr que je veux qu'Anthony gagne sa bague. Fait, t'sais, il l'a gagné. Puis, ça lui a permis, regarde, même avec une saison un peu plus difficile au plan personnel, il a réussi à installer un poste avec Houston. Puis, t'sais, là, ça va super bien, ses affaires là-bas. Fait, c'est vraiment le fun.
J'ai une petite question d'ordre financier. Au baseball majeur, tu peux avoir une bague, mais tu peux aussi ne pas avoir la bague et avoir du share money, qui est une division des profits qui ont été faits que tu reçois. Donc, ça peut varier entre 400 et 800 000 ou une bague. Au football, c'est la même chose ou tout le monde reçoit une bague?
Tout le monde reçoit la bague. Okay. Il n'y a pas d'option. Okay. C'est intéressant, je ne savais pas ça pour le baseball, c'est cool. Ouais. Mais au foot, non, tout le monde a sa bague. Il n'y a pas d'option de renoncer à la bague pour avoir du... Dans la NFL, ils ne donnent pas de l'argent aux joueurs comme ça. C'est vraiment là... Faut que tu te battes pour ton argent dans le foot, dans la NFL. Puis si une équipe trouve le moyen de t'en donner moins, ils vont le faire. Donc, tu sais, c'est juste de toujours sécuriser. Puis au niveau de la bague, ben c'est ça, c'est pas d'option.
OK. Mais en fait, c'est souvent... Tous les gars sur le 40-man roster vont avoir une case... Une distinction. Donc, des fois, c'est tu reçois la bague ou tu reçois l'argent, mais c'est pas le choix du joueur, en fait. C'est selon où tu étais. Fait que si t'es sur le 40-man roster, mais t'es blessé et t'as pas joué du tout de l'année, tu vas recevoir de l'argent. Ceux qui ont joué vont recevoir la bague. Donc, ils divisent ça un peu comme ça.
Ah, c'est intéressant. J'ai appris quelque chose parce que ça je savais pas que c'était comme ça. Mais au foot, non. Au foot, c'est si t'es sur l'équipe, même sur l'équipe de pratique, tu peux aller chercher ta bague. Ouais.
Wow. Puis toi, est-ce que t'en as une ou si tu l'as tu sais, c'est non, c'est ça. C'est pas Laurent qui peut comme dire ah, regarde, je vais t'en payer une, mais c'est vraiment, tu fais pas partie de l'organisation.
J'ai pas vu celle de Tampa en vrai encore parce que c'est drôle, mais avec Anthony, on n'a pas pu se voir beaucoup depuis un an et demi. On s'est vu un peu, mais pas beaucoup. Mais il y a eu sa bague cet été, puis je l'ai pas vu depuis. Mais dans l'off-season, je vais monter à Québec le voir, puis j'ai hâte de la voir. Mais celle de Kansas City, je l'ai vue, c'est de toute beauté. C'est capotant, là. C'est surréel un peu là, comme objet.
C'est des trophées, tu ne tombes pas à l'eau avec ça, tu coules.
Non, c'est ça, exactement. Exactement.
Sacha Gavamy, un gros merci pour le temps que tu viens de passer avec nous ce matin. C'est super intéressant. On va peut-être se reprendre éventuellement s'il y a des choses qui se passent dans le monde là, qui peut avoir un lien avec les agents de joueurs, les contrats et tout ça. Un gros merci encore.
Non, merci à vous autres de m'avoir reçu. C'est toujours le fun de vous jaser. Content de revoir coach aussi. Puis, de GF, toi, avec les agents libres, on a des belles discussions. Puis, continuer ça ici ce matin, c'est le fun. Puis, merci de m'avoir reçu. Puis, n'importe quand, si jamais vous voulez qu'on se reparle, ça me fera plaisir.
Merci beaucoup, Sacha.
C'est bon, merci.
Yes, un gros merci. Merci à tout le monde. Bon week-end.
Famille H2O Web Media.